what you do?
You'll shoot your eye out, kid.
I am serious. And don't call me sir.
There's no crying in baseball!
Forever.
Man, the meatloaf!
It's not a tumor.
Price is wrong, bitch.
Hey, the Schwartz baby!
Walking down the street, pretty woman.
I am your father.
Like to meet pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy.
Allez, eh bien, chers auditeurs, chères auditrices,
bienvenue. Je suis pas prêt.
Non, mais tu n'as jamais été prêt, mais c'est pas grave. On fera avec ou on fera sans, c'est selon. Donc, chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue à ATC, l'émission que tu aimes regarder à ta radio. Aujourd'hui, puisque notre cher Hugo avait décidé de parler un petit peu de sentiments, de cuore, de heart, de cœur. Voilà, parce que évidemment, elle a été transfigurée par le film de Michael Haneke, Amour. Donc aujourd'hui, nous parlerons non pas des vieux, mais des comédies romantiques. Voilà. Donc,
tu bonjour.
Bon, oui, déjà, au bout de 15 minutes, on sait quand même que je ne suis pas tout seul. Oui, et donc, cher Hugo, est-ce que tu veux nous expliquer finalement qu'est-ce qu'une comédie romantique ?
Non, je veux pas.
Ok, eh bien.
Une comédie romanticasse.
Oui, comme Isidore Ducasse.
D'accord. Bonjour.
Bonjour.
Je suis Hugo, celui qui a très peu de temps de parole. Donc, une comédie romantique, Gwen, ou comédie sentimentale.
Sentimentale ?
Oui.
C'est bien, j'aime bien les sentimentales, moi.
Avec Alain Souchon.
Oui.
Est un type de film d'amour, hein, ça tu sais pas ce que
oui.
C'est.
Non, non.
Merci.
Non.
Donc, mettant en scène, hein, de manière humoristique, histoire d'amour, ou du moins une partie de l'histoire d'amour entre deux personnes.
Mmh.
Elle alterne scènes humoristiques et scènes plus sérieuses qui cherchent davantage à émouvoir l'œuvre la plus célèbre hein, du genre et sans doute Longue Jambe.
Pretty Woman.
C'est bien. De Gary Marshall. Hein,
oui, oui.
Avec Richard Gere.
Oui, oui, qui gérait bien d'ailleurs.
Oui. Et Julia Roberts.
Oui, qui avait de...
Qui a des actions dans le dictionnaire.
Voilà, c'est ça. Pourtant, elle était rousse en plus.
Je veux pas le savoir. Ça n'engage que toi. Donc, la comédie romantique hein, cherche avant tout à raconter une histoire
d'amour.
C'est bien. Donc, le scénario type de la comédie romantique peut se résumer ainsi. Deux personnes que tout oppose en apparence. Hein, l'homme psychorigide.
Oui.
Et la femme
Extravertie.
Non, excentrique.
Oh, merde.
Le riche homme d'affaires et la pauvre prostituée. Donc, se rencontrent et vont progressivement tomber amoureux l'un de l'autre.
Non.
Oui, mais peine à l'admettre.
C'est
non,
ça.
Non, je t'aime pas.
Non, mais c'est le film où le spectateur sait déjà ce qui va arriver et le personnage, lui, ne le sait pas.
Il y en a qui savent pas. Hein.
De quoi ?
Non, c'est pas grave. Donc finalement, leur amour triomphe des obstacles et les protagonistes finissent ensemble.
Ensemble ?
Oui, avec...
Ah, ça, c'est les... Non, mais ça, c'est les liaisons dangereuses, ça. Ça n'a rien à voir.
Oui. Deux.
Chocolat voilà. Du Clodo. De Milos Forman.
Il arrive toujours pas à dire le nom. La comédie romantique.
Qui rame beaucoup.
Oui. Donc raconte une histoire d'amour de manière humoristique, mais ne cherche pas constamment à faire rire.
Hein. Eh oui.
Un film comme Marie à tout prix.
Voilà, tu es des frères Farrell.
Qui certes raconte une histoire d'amour, ne saurait être attaché au genre, car il ne comporte aucune scène qui ne cherche pas à faire rire le spectateur. Il s'agit en fait d'une comédie pure et non d'une comédie romantique.
Voilà,
hein.
Tout à fait.
Faut pas se tromper.
Oui,
hein.
Mais c'est ça, c'est-à-dire que l'histoire d'amour, elle sert juste de faire valoir. C'est pas l'essentiel de l'œuvre.
De l'œuvre.
Ouais, de l'œuvre.
Donc la comédie romantique alterne scènes humoristiques et scènes cherchant davantage à émouvoir. Là
oui.
J'ai insisté quand même, si les gens n'ont pas compris. Hein.
Ouais. Non mais c'est ça, il faut un moment où les gens ils soient tout tristes.
Confère donc la deuxième moitié, parce qu'il n'arrête pas de me couper, donc mes phrases ne veulent plus rien dire. Hein. Confère la deuxième moitié du film, donc Pretty Woman, hein, dont le ton est beaucoup plus sérieux que dans la première partie. Mm-hmm. Sans pour autant flirter avec le drame. Par exemple, elle et lui, hein. Tu vois pas ce que c'est ?
Oui, si, si.
Très bien. Met en scène l'histoire d'amour entre deux personnes dont l'une devient handicapée à la suite d'un accident. Une telle situation est difficilement imaginable dans une comédie romantique. Mmh. Ce qui fait que le film sera plutôt qualifié de comédie dramatique ou de mélodrame.
Oui, tout à fait.
Donc là, on passe vraiment dans un genre qui est codifié.
Ah, mais c'est super codifié même.
Donc la comédie romantique ne cherche généralement pas à ménager des chutes imprévisibles.
Bah voilà, c'est ça, c'est ce que je te dis.
Arrête de dire oui.
Oui.
Tu dois dire non des fois.
Non.
D'accord.
C'est pas vrai ce que tu dis.
Bien, j'aime bien ça. Le spectateur donc sait dès le début du film, hein, ou plutôt même non, ou plutôt avant même d'entrer dans la salle, que les protagonistes vont tomber amoureux et qu'ils vont finir par vivre ensemble.
Ouais, oui, mais c'est comme dans les films de bourrin des années 80. Je veux dire, les Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger, c'était pareil. Hein, je veux dire, tu savais qu'il allait gagner et remporter la fille.
La question est de savoir comment ils vont finir ensemble.
Eh hein. Oui.
Et c'est sur ce point que les scénaristes doivent faire preuve d'imagination.
Tout à fait, mais tout à fait.
Le genre comporte par exemple des figures imposées ou quasi imposées, hein, comme le patinage.
Oui, c'est ça, il y a des notes.
Oui.
Surtout du juge russe d'ailleurs.
Oui, et des personnages types. Hein. Mm-hmm. L'ami homosexuel de l'héroïne.
Ça. Oui, oui.
Dans l'ami. Les films des 10 dernières années, comme Le mariage de mon...
meilleur ami.
C'est bien. En tant que genre...
Oui, genre.
Il existe... cependant, des variantes. Le scénario de Sa mère ou moi, par exemple, est moins axé sur l'histoire d'amour entre l'héroïne, virgule, Charlie et son futur mari, Kevin.
Kevin, oui, oui. De l'émission à deux balles.
Voilà, c'est lui. Qui sont ensemble au bout d'une demi-heure de film à peine. Oh,
mais
là
elle
là.
A toujours été très rapide.
Ou que sur la rivalité entre Charlie et la mère de ce dernier qui cherche à empêcher leur mariage d'avoir lieu. C'est chiant au bout d'un moment. Je sais pas qui c'est qui a choisi ça.
Oh, moi non plus.
C'est arrête, Kevin. Tu dois montrer de la romantisme.
Le romantisme, ok.
C'est bien, tu as pu au moins te raser, mais c'est pas grave. L'autre question liée à celle du genre de la comédie romantique et qui ne peut être considérée comme une variante, c'est dur ce mot.
Oui, variante, oui. Mmh.
Et celle de son histoire ou de sa généalogie. Et si oui. Les traits de la comédie romantique qui ont été retenus dans sa définition sont ceux de la new comedy de Johnson. L'agent Johnson, pas
oui,
le
oui,
Johnson.
Pas le coureur dopé.
Il n'a pas fait exprès.
À la suite son plein gré, lui aussi.
Oui. Il faut penser également à son grand rival du théâtre Élysée.
Élisabéthien.
Non. Élisabéthin.
Tain.
Shakespeare.
Oui.
Et le modèle donc de la old comedy. Donc un critique hein, comme Northrop Frye fait remarquer... que tandis que la new comédie en assiste aux efforts d'un jeune homme pour triompher des obstacles que suscite une figure de vieillard, hein, le Sénex, contre son mariage avec la jeune femme, dans la old comédie, celle de Shakespeare, l'accent est mis sur l'héroïne qui détient peut-être la clé d'une conclusion heureuse et surtout subit quelque chose de l'ordre de la mort et de la résurrection dont on trouve le modèle dans ses dernières comédies de Shakespeare, notamment le Comte d'Hiver. Cette distinction est reprise par Stanley Cavell hein, dans son élaboration du genre dit des comédies de remariage qu'il repère dans 7 films des comédies dites screwball comedy
oh yeah.
Des années 30-40 du cinéma hollywoodien.
Tout à fait, mais tout à fait.
J'ai encore le droit de parler.
Mais oui, vas-y mon petit.
Donc moi je vais me pencher sur quelques-uns des plus grands réalisateurs romantiques. Après je te laisserai partir dans tes années folles.
Ok.
Donc il existe... Il existe...
Il existe... Bienvenue à Getty Disney.
Problème, mes dents ne répondent plus avec ma langue. Il existe au cinéma des réalisateurs qui se sont spécialisés dans le film romantique, monsieur Gwen.
Oh non.
Si.
Qui?
Je dirais pas des noms. Ces réalisateurs de romance ont signé parmi les plus grands succès du cinéma au cours de ces dernières années. Aux États-Unis, Gary Marshall.
Ah oui, Gary Marshall.
Oui, a su s'imposer comme un poids lourd hein, en boxe.
Oui, il avait un plan, lui.
Oui, dans le monde des réalisateurs romantiques. Il a conquis le cœur du public avec...
A Pretty Woman.
C'est bien. Qui reste pour beaucoup un des plus beaux films d'amour au cinéma. Oui, alors que l'affiche, hein, c'est même pas ces gens.
Oui, non, mais il y a eu... Enfin, j'expliquerai plus tard, mais c'est
oui.
Que...
Oui, non, mais ça m'a étonné que tu n'aies pas tes ondes négatives. Il est également le réalisateur de Frankie et Johnny.
Ah ouais. Je connais pas.
Ça m'étonne pas. Romance rassemblant Al Pacino et Michelle Pfeiffer.
Ah oui. Non.
Non, d'accord, ouais, ça m'étonne pas. Non, le romantisme chez toi, c'est pas...
Et surtout que logiquement, c'est Al Pacino qui devait jouer dans Pretty Woman, qui a dit non.
Non, c'est Gérard Capet, Richard.
Oui, mais oui.
Il gère tout, lui. Quelques années plus tard, il remettra donc en scène Richard Gere d'ailleurs et Julia Roberts pour une nouvelle comédie romantique, Runaway Bride.
Oui, c'est là où elle n'arrête pas de s'enfuir. Là.
Qui rencontrera également un beau succès, mais si plus commercial.
Mais c'est plus commercial que...
Critique, il manque un mot, mais c'est pas grave, on a quelqu'un volé un mot. En 2010, il sortira le film Valentine's Day.
Oh ouais.
Tu vois là, cette fête commerciale.
Oui, tout à fait, oui.
Vous pensez à un jour par an à sa femme.
Oui, et au marchand de bijoux.
C'est, je crois que c'est la femme qui offre un truc à l'homme, c'est ça le,
non, c'est, non, c'est l'inverse, non. Non, non, c'est le monsieur qui offre un gros bouquet de roses.
Et nous, on n'a pas un jour comme ça où on nous... Non. Ah non, nous, si le reste, c'est tout le reste
en année. Non, non, nous, on a la fête des pères, mais si t'es pas père, bah t'as rien. Ouais. Même si t'es grand-père, t'as rien non plus.
D'accord, non, t'as jamais rien. Quoi.
Voilà, c'est ça.
Ok, c'est pour ça qu'ils ont inventé les restos du cœur. Donc, réflexion sur l'amour et le jour des amoureux vécus par des personnes en couple ou célibataires. Bien qu'ils se définissent par des genres cinématographiques très différent, Rob Reiner peut toutefois être classé dans la catégorie des réalisateurs romantiques. Sa première comédie romantique date de 1985, Garçon Choc pour Nana Chic.
Ah, c'était de Serge Gainsbourg.
Oui, c'est ça. C'est en 1989 qu'il rencontrera le succès avec une comédie sentimentale incontournable.
Quand Henri rencontre Sally.
C'est bien, et puis il nous le repasse encore celui-là.
Ah bah.
Topette chère, quoi. Donc le film se passe sur plus d'une décennie.
12 ans. Techniquement.
Il faut qu'il la ramène. Il ne peut pas qu'on lui coupe les mains s'il ne touchera plus aux manettes. Donc, le film se passe sur plus d'une décennie, 12 ans, voilà, 12 ans. On sait. Et montre l'évolution des relations et sentiments entre les deux acteurs principaux, Billy Crystal et Meg Ryan. Ils sont morts tous les deux ?
Non.
C'est bien, quoi.
Enfin, physiquement, Meg Ryan, elle est morte, oui.
Ah, d'accord.
La chirurgie l'a tuée.
Oui, à défaut d'Omar. Dans le même genre, il produira également Le Président et Miss Wade. Ainsi qu'une vie à deux. Je préfère les vies à plusieurs. Dans ses films d'amour, il mettra en scène parmi les plus grands acteurs du cinéma américain. Il y a un Z maintenant.
Oui, oui, oui. Bah oui.
Tels que Michael Douglas ou Bruce Willis.
Ah oui, bien connu, Willis.
Oui, qu'on a vu dernièrement dans G.I. Joe.
Oui.
Ou Red 2. Nora Ephron fait aussi partie de ceux qui sont considérés comme réalisateurs de romance à Hollywood. Son premier film, Nuit Blanche à Seattle. Tu vois où c'est, hein?
Oui, Seattle, oui, oui, c'est dans l'état de Washington.
C'est très bien, mon petit. Rassemblant donc Meg Ryan et Tom Hanks, a connu un véritable succès dans le monde. Elle décide en 1998 de jouer ensemble donc ces deux acteurs pour une nouvelle comédie dans le romantique. Vous avez un message. Un message, je sais pas où est mon télé. Mettant en scène donc les quiproquos sentimentaux liés à l'amour virtuel. Mm-hmm. Ça marche. Hein. En France, donc Claude Lelouch, qui a des drôles de yeux, donc pourrait être cité comme le réalisateur romantique par excellence. Il est notamment le créateur du mythique.
Quand un homme rencontre une femme.
Non.
Je sais pas, non.
Un homme et une femme.
Un homme et une femme. Ah oui, non. Oui, enfin, la comédie romantique, tu m'excuseras.
Hein. Oui, c'est vrai, oui, il me semblait. Donc, dans son film, Anouk Aimée et Jean-Louis.
Trintignant.
Voilà.
Et non, faut pas oublier la Ford Mustang. La Ford Mustang, elle est importante.
C'est bien. Donc, joue chacun le rôle d'un veuve, inconsolable, et qui vont pourtant s'aimer passionnément. Ce film décrochera une palme d'or au Festival de Cannes, mais également un Oscar et un Golden Globe du meilleur film étranger. Il produira donc également d'autres films romantiques tels que Un homme qui me plaît, avec Jean-Paul Belmondo et Annie Girardot. Toute une vie aussi de François Truffaut, qui fait l'autopsie d'un coup de foudre. Bang, je fais bien le coup de foudre. Hein.
Ouais. L'impact physique.
En Marthe Keller et André Dussolier. Ou encore Edith et Marcel, revenant sur l'histoire d'amour mythique entre Edith Piaf et Marcel Cerdan.
Ouais.
Donc les réalisateurs de romans seuls sont parfois... Oula.
Oui. C'est-à-dire c'est au sujet de Quatesque. Oui, tout à fait.
Ainsi, certains des plus grands films d'amour de l'histoire du cinéma ont été réalisés par des cinéastes assez peu spécialisés dans le genre. On se souviendra donc entre autres du film Nos plus belles années, mettant en scène Barbara Streisand et Robert Redford. Yeah. Donc, qui est souvent cité comme référence en ce qui concerne les films d'amour produits par Sidney
Pollack.
C'est bien. Sur la route de Madison aussi, de l'éclectique Clint Eastwood,
oui.
Qu'on avait déjà parlé. Hein, voilà. Ou encore Titanic de James Cameron.
Titanic ta mère.
C'est pitoyable.
Si tu aimes les icebergs, tombe dans des mains. Si tu aimes les icebergs.
Non mais toi ça va pas bien. Donc plutôt habitué aux films d'action. Donc je coupe, vous voyez que mes phrases sont, même si je parle, elles sont complètement saturées par un malade mental. Maintenant je vais parler de la définition du film romantique. Je vais faire une tentative. Non, mais je vais conclure avec les différents styles de films romantiques. Mmh. Parce qu'après, Monsieur Gwen, oui, il est pas.
Non, tout bah, à moi, fait je vais parler surtout des films. Quoi.
Voilà,
exactement.
C'est un professionnel. On peut considérer, puisqu'il est passé à Alpes Magazine, on peut considérer qu'il existe donc globalement deux grands styles de films romantiques, Monsieur Gwen. Mmh. Les comédies et les drames.
Oui, tout à fait.
On est d'accord. Bien que dans les deux cas.
Oui, oui.
Bien beau. Donc, le thème général soit l'amour. Et les protagonistes, souvent un homme et une femme, hein, bon, en attendant un mariage pour tous.
Brokeback Mountain.
Tu sors. Pas d'histoire de cheval. Hein. Pff, il m'a coupé la phrase, elle est nulle. Bien que dans les deux cas, le thème général soit l'amour et les protagonistes, souvent un homme et une femme liés par des sentiments, virgule, le fait de choisir par ces styles de films romantiques permet d'avoir des films d'un genre extrêmement différent. Dans le cas de la comédie, le réalisateur cherchera à faire rire le spectateur et à faire un film dont le but principal est le divertissement. La comédie romantique est un style de film romantique qui a toujours été apprécié dans le monde du cinéma, et ce depuis ses débuts, hein, il vous en parlera le Mr.
Oui,
Wen,
tout à fait.
Avec New York Miami de Frank Capra, hein, réalisé en 1934, et considéré comme un modèle du genre à Hollywood.
Tout à fait.
Il sera suivi donc de Bringing Up Baby, également connu sous le nom de L'impossible Monsieur Bébé,
mmh.
et de Arsenic et vieille dentelle. Hein. J'ai le droit de. Je peux mettre place Arsenic.
Oui, mais c'est bien. Non. Bah, si t'as des paris, c'est bien.
Non, je touche 1500 euros chaque fois que je peux placer ça.
Ouais, super.
Le genre sera sans cesse renouvelé selon les époques. Depuis ces 20 dernières années, hein, ce style de film romantique a fait l'objet de nombreux grands succès de cinéma, tels que Pretty Woman, Quand Harry rencontre Sally, Quatre mariages et un enterrement, ou encore Le journal de Bridget Jones.
Bridget Jones.
Voilà. C'est la sœur à Indiana.
Oui, c'est pas faux.
Donc, le drame est un des ressorts
Contournable.
Non, couramment utilisé parmi les styles de films romantiques. L'amour reste un élément récurrent, mais il s'agit le plus souvent d'une relation contrariée par des événements extérieurs. Guerre, tragédie, environnement, socio-culturel, politique, etc. Ou des événements touchant les protagonistes plus directement, comme la maladie, les drames ou l'éloignement physique. On trouve dans cette catégorie des films comme Nos plus belles années, hein, comme j'ai cité tout à l'heure, mmh. où les personnages principaux joués par Barbara Streisand et Robert Redford sont éloignés par leurs différences culturelles et sociales. Le film du réalisateur Wong Kar-wai, In the Mood for Love,
oui, super.
Montre également un amour dans une situation complexe et tabou. Dans un automne à New York, hein, c'est la maladie qui représente l'élément dramatique. Hein. Tu aimes ça?
Oui.
Le malheur des autres.
Oui, c'est ça.
Il semblait. La guerre joue les troubles faits dans de nombreux films et reste un classique du film romantique avec des exemples comme Pearl Harbor ou Un long dimanche de fiançailles. Même Casablanca pourrait en faire partie. Enfin, le film Catastrophe, lui aussi, n'est pas en reste et Titanic est l'exemple type d'un naufrage émotionnel, si peu métaphorisé, avec les métaphores.
Oui, moi je crois que c'était un iceberg, mais bon.
À vous, Cognac G. Je rends les studios.
Oh, ok.
Non, j'ai pas fini.
D'accord.
C'était la blague. Qu'est-ce que le romantique, hein, Gwen ? C'est pour toi, ça.
Oui.
Donc, c'est...
Je comprends pas. J'ai pas à comprendre.
Allô ?
Allô ?
Le romantique,
non. Mais
non.
Allô ?
Oh bah c'est sûr qu'avec ça, tu risques pas d'aller loin. Donc, qui par nature touche la sensibilité et l'imagination, invite à l'émotion et à la rêverie, à l'expression des sentiments.
Ok ! Mais tout à fait !
Dépêche-toi, je prends la parole dans 10 minutes.
Ah bon ? D'accord.
Oui, on m'a dit qu'il fallait s'imposer.
Ok, super. Oui, alors donc effectivement, ces comédies romantiques commencent très tôt. Enfin, très tôt, moi, le premier film que j'ai, c'est quand même en 1931. Je pense que sûrement avant. Mais le premier...
Qui a été identifié au genre.
Voilà, c'est ça. C'est Les Lumières de la Nuit de Charlie Chaplin.
En muet ?
Oui. Oui, oui, effectivement, il luttait encore pour le muet. Parce que c'est le fameux personnage du vagabond qui devient l'ami d'un millionnaire et qui rencontre une jeune femme qui est malade, complètement malade. Et le milliardaire va l'aider à donner des sous pour que, voilà, il puisse aider la jeune fille. Malencontreusement, évidemment, les policiers s'en mêlent, il est obligé de donner les sous à la dame et il finira en prison. Voilà. Ensuite, il ressortira de prison, il vagabondera et rencontrera la jeune fille qui lui donnera une pièce et une jolie.
Chapeau.
Effectivement, comme tu disais, il y a ensuite New York Miami de Frank Capra avec Clark Gable.
Miami.
Oui, et Claudette Colbert.
Donc, comme le canard ?
Comme l'intendant.
D'accord.
Donc c'est une jeune fille riche.
Non, c'est Colbert le canard, excusez-moi.
Donc c'est une jeune fille riche qui veut épouser un mania de l'aviation. Elle quitte Miami pour New York par le bus de nuit, où elle rencontre Peter, qui est un journaliste au chômage. Il la suit, sentant qu'il y a un scoop derrière tout cela. Et bien sûr, it's love, baby. Il tombe amoureux, et elle, elle rencontre évidemment la vie simple de l'Amérique qui lui était inconnue. Son père, évidemment, la retrouve et croit que Peter veut l'escroquer, qu'il en tire des sous. Et oui, c'est le ressort classique, dirons-nous. Et elle doit épouser un industriel. Et là, évidemment, le vieux s'en rend compte qu'effectivement, sa fille a mûri.
On dit pas vieux.
Oui, bah si, moi je le dis. Et qu'effectivement, l'histoire d'amour aura lieu. Donc le film est peu porté par Gibbon et Colbert, qui avait été prêté par la Paramount et la MGM. Et c'est en plus été peu estimé par Columbia parce qu'ils avaient donné quand même peu de sous. Et pourtant, il a eu 5 Oscars. Voilà, donc l'Oscar du meilleur film, du scénario, du metteur en scène, de l'acteur et de l'actrice. Donc,
en 34.
Oui, c'est tout à fait. Et en fait, il est un peu à l'origine du genre, donc de la comédie romantique. On dira que pour la première fois, un homme et une femme existent ensemble. Les répliques font mouche, les caractères existent, le scénario s'efface. La leçon dépasse largement la seule comédie. Capra, dans ses durées allongées, ses rythmes frénétiques avec accalmie, ses découpages incomparables, il y a des images qui sont fondatrices. Les jambes de Claudette plutôt que le pouce de Clark pour faire de l'autostop. La pudeur est respectée lors de l'épisode de la trop mince couverture entre les futurs déjà amants. Ensuite, il y a évidemment l'impossible Monsieur Bébé de Howard Hawks avec Cary Grant. Hein. Cary, hein, pas Gary. Hein. Cary Grant.
Et Malodin.
Et Catherine Hepburn.
Hepburn. Hepburn, oh, bravo, c'est monsieur.
Ça. Non, non, c'est dans... Non, qui a retué Pamela Rose.
Je ne cautionne pas que tu t'apprennes au nom de star.
Voilà, c'est ça. Sans doute, moi, oui. Donc, évidemment, c'est l'histoire d'un brillant paléontologiste qui voit tout son travail remis en cause par l'arrivée d'une riche et excentrique héritière, avec une histoire de léopard au milieu.
Ah.
Donc, le mâle américain moderne se retrouve dépassé par un enchaînement du sort amené par une femme aux intentions plus concertées qu'elle ne veut l'avouer. Et là, c'est vraiment le personnage de Cary Grant est vraiment extraordinaire parce que lui, ça va être vraiment son fond de commerce. Il y a la Dame du Vendredi aussi de Howard Hawks avec encore une fois Cary Grant et Rosalind Russell. Donc après son divorce, un directeur de journal s'aperçoit qu'il a perdu en sa femme sa meilleure collaboratrice et évidemment, il va rechercher à la retrouver parce qu'il faut quand même pas briser les bons mœurs. On est dans les années 30 quand même. Hein. Il y a Indiscrétion de George Cukor avec Cary Grant, Catherine Hepburn et James Stewart. Donc Tracy Lord, pour ceux qui connaissent, c'est une aristo de l'Est qui doit épouser en seconde noces un bourgeois. Son premier mari s'ingénue à faire avorter le projet. Donc il fait engager un couple de reporters, une photographe et un écrivain, sans le sou, qui tentera de séduire la belle héritière. Et Tracy, évidemment, à la fin donnera son congé au second pour épouser le premier. C'est beau. Hein. Il y a encore Cette sacrée vérité de Léo McCary avec Cary Grant.
Cary.
Couple divorcé par chacun de son côté et finalement ils se retrouveront.
C'est beau ça.
Il y a Le Rendez-vous, qu'on nomme en anglais The Shop Around the Corner, d'Ernest Lubitsch. Vous avez un message sur le remake de ce film-là. Donc à Budapest, Alfred Kralik, qui jouait par James Stewart, et Clara Novak, qui jouait par Margaret Sullivan, travaillent dans la même boutique. Ils ne s'entendent pas, évidemment. Mais Alfred correspond avec une femme par petite annonce. Et évidemment, qui n'est-ce qui sait que cette femme ? Évidemment, c'est Clara, celle qu'il déteste. Et là, évidemment, lui s'en rend compte et évidemment, il va tout tenter pour la séduire. Donc voilà, ça sera un peu le même cas aussi dans Vous avez un message, à part que là, Tom Hanks, lui, est un patron d'une chaîne de librairie et Meg Ryan, elle, a une petite librairie de quartier qui se nomme The Shop Around the Corner.
Sacré clin d'œil.
Voilà, sacré clin d'œil. Évidemment, sa société va vouloir piquer, évidemment, ce magasin et voilà.
C'est un grand classique, voilà, c'est ça. Parce que ça a bien évolué quand même.
Ouais, et il y a Les Hommes qui préfèrent les Blondes aussi, de Howard Hawks, avec Jane Russell et Marilyn Monroe.
Oui,
hein,
on en avait parlé, ça.
Voilà, donc deux vedettes du show business qui ont des attitudes évidemment opposées aux hommes. Laura Eli, donc la blonde, ne voit que en eux des comptes en banque. Et évidemment, Dorothy, la brune, que leurs muscles. Donc évidemment, durant la croisière, elle va rencontrer son riche héritier qui est tout timide et elle va épouser le détective qui était chargé de leur surveillance. Il y a le fameux film aussi Sabrina de Billy Wilder en 1954 avec Audrey Hepburn cette fois-ci, Humphrey Bogart et William Holden. Donc dans une famille riche qui n'en a rien à faire de leur domestique, vit Sabrina qui est la fille du chauffeur. Donc elle est complètement amoureuse et éperdument amoureuse du fils déluré qui lui évidemment n'a rien à faire d'elle. Son père l'envoie à Paris pour qu'elle étudie. Elle reviendra 2 ans plus tard. Mmh. Et évidemment, là, les choses changent. Évidemment, elle devient la centre d'attraction. Il y a un remake qui sera fait par Sidney Pollack en 95, avec donc c'est Harrison Ford qui prendra le rôle d'Humphrey Bogart. Julia Ormond, qu'on avait vu dans Légende d'automne, qui évidemment, elle jouera le rôle d'Audrey Hepburn. Et Gregory Kinnaman, qui est lui, pour ceux qui suivent la série Les Kennedy, qui joue Kennedy, et qu'on avait vu aussi pour le meilleur et pour le pire. Il y a aussi un film qui est très très connu, c'est Diamant sur canapé, qu'on connaît plus facilement en anglais, Breakfast at Tiffany's, de Blake Edwards en 1961, et qui est une nouvelle éponyme de Truman Capote, donc avec Audrey Hepburn évidemment, et George Peppard, qui avait toujours un bon plan, hein.
Oui, Hannibal Smith.
Voilà, c'est ça. Donc un écrivain, Paul Warchak, végète depuis longtemps. Il est entretenu par sa riche maîtresse, qu'on appellera E2, dans une garçonnière à New York. Bah oui, c'est son nom. Il rencontre sa voisine, une jeune femme vivant de ses charmes et comptant sur un riche mariage. Elle organise des fêtes déchaînées dans son appartement et elle souffre de la nostalgie de son Texas natal qu'elle a pourtant fui et de son frère parti à l'armée. Naïve, elle tombera évidemment dans un trafic de drogue. Enfin, elle sera arrêtée pour trafic de drogue. Et évidemment, son mariage avec un riche Brésilien tombera à l'eau. Donc, elle veut essayer de rejoindre ce riche Brésilien. Et évidemment, Paul lui déclara son amour. C'est un film très connu. Dans les comédies romantiques, on le voit souvent. Les nanas regardent souvent des films à la télé. Et c'est souvent ces films-là qu'on voit. Notamment dans Amour et ses petits désordres, on voit évidemment le film Breakfast at Tiffany qui fait cher de référence, évidemment, puisque ces femmes sont délaissées, veulent rencontrer le grand amour et que c'est grâce à ces films-là qu'elles entretiennent l'espoir. Il y avait Annie Hall, aussi de Woody Allen, en 77. Oui. Donc c'est le personnage de Woody Allen, donc Evie Singer, qui est un névrosé, évidemment, classique, hein, des personnages de Woody Allen, qui rencontre Annie Hall, qui est complètement excentrique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est avec Diana Keaton, et que son vrai nom c'est Hall, et que son surnom c'était Annie.
D'ailleurs, ça n'a pas été son seul film avec Woody Allen.
Oui, tout à fait, oui. Après, il y a évidemment quand Harry rencontre Sally en 89, évidemment, de Rob Reiner. Alors, Harry et Sally se rencontrent en 77, parce qu'ils ont fini leurs études à Chicago et qu'ils vont à New York. En fait, Harry a une amie qui a une petite copine qui s'appelle
Harry
Amanda.
Harry a une amie qui veut du bien.
Oui, c'est ça, oui, qui s'appelle Amanda et qui est la grande copine de Sally. Donc, ils proposent de voyager ensemble. Évidemment, c'est la première rencontre des deux protagonistes. Et durant ce voyage, ça va mal se passer parce qu'évidemment, Harry tient des propos en disant qu'il ne peut y avoir d'amitié entre hommes et femmes, ce n'est que sexuel. 5 ans plus tard, ils se rencontrent à l'aéroport. Ça aussi, c'est souvent dans les comédies romantiques, l'aéroport est un lieu obligatoire, hein, comme la librairie apparemment d'ailleurs. Donc, oui. Ils se rencontrent à l'aéroport et ils prennent le même avion. Donc, Sally est fiancée et elle est journaliste. Harry est consultant politique et va se marier. Bon, apparemment, la conversation se passe mieux. 5 ans plus tard, ils se rencontrent dans une librairie, comme quoi, hein. Harry a divorcé et Sally a rompu. Donc leur relation amicale se développe. Ils finissent évidemment par coucher ensemble. Et hélas, ils s'en veulent d'avoir succombé à cela. Et donc évidemment, ils se disputent. Ça aussi, c'est un grand classique des comédies romantiques. Toujours une dispute à un moment pour que évidemment le personnage, l'un des deux personnages, se remette en cause.
C'est surtout pour réveiller le film aussi.
Oui, aussi, c'est tout à fait. Mais donc évidemment, ils se retrouveront au Nouvel An et que là, évidemment, il tombera dans le bras.
Tu l'as vu ce film au moins ?
Oui, je l'ai vu. Mais oui, parce qu'en fait, il est émaillé aussi d'interviews de vrais couples et tout au milieu.
Donc, il n'y a voilà que Mike.
Voilà, c'est ça. Et que évidemment, le dernier couple n'est autre que Harry et Sally. Et évidemment, Pretty Woman de Gary Marshall en 90. Donc, Edward, là, c'est pas le celui de Twilight. C'est le personnage de Richard Gere. Évidemment, un riche qui se paume dans un quartier avec sa belle voiture. Évidemment, qui rencontre une prostituée, Vivienne, jouée par Julia Roberts. Elle va l'amener jusqu'à son hôtel. Il va la garder, il va la payer pour qu'elle reste avec lui. Là, il va être ébloui par son excentricité, alors que lui, il est un peu guindé. Elle, évidemment, c'est une vie complètement luxueuse. En plus, si tu te rappelles bien, au début du film, il y a quand même un serial killer qui découpe des nanas. Hein. Bon, elle, ça l'inquiète pas plus que ça, hein, dans les comédies romantiques, les trucs comme ça, c'est... Et il y a aussi la fameuse scène de l'essayage, qui va devenir un classique, hein, là où elle essaie tout plein de costumes, qui sera même notifiée dans le film La Cité de la Peur. Alors, ce film avait été, par contre, hué par tous les féministes qui trouvaient ça dégradant que l'héroïne soit une prostituée, qu'on mette en avant la prostitution. Voilà, en disant que, grâce à la prostitution, tu pouvais rencontrer un homme riche. Donc voilà, mais qui a quand même eu un large succès, hein. Le grand classique britannique, ensuite, en 94, 4 mariages et un enterrement de Mike Noël. Le personnage de Hugh Grant, Charles, est omnubilé par Carrie Annie McDowell.
Non, Andy.
Andy McDowell. Ah. Et avec une sacrée bande d'amis. Donc évidemment, il y a 4 mariages. Donc au premier mariage d'Angus et Laura, Charles rencontre Carrie et passe la nuit avec elle. Il y a le personnage de Garrett, le barbu, qui est complètement excentrique. Lui, un écossais de pure souche. Matthew. Son ami un peu plus gay, disons-nous, et qui en fait formait un couple. C'est juste à la mort de Garrett qu'on apprend qu'ils sont un couple, et c'est là où le fameux passage dramatique où là Matthew lit The Funeral Blues. Il y a aussi Fiona, qui est jouée par Christine Scott Thomas, et qui avouera ses sentiments à Charles. Là aussi, moment d'émotion. Et il y a aussi Scarlett qui est un petit peu la copine à Charles, mais. Qui se traite un peu de fouille merde quand même. Et puis évidemment aussi Thomas, qui est un peu le neuneu, puisqu'il faut toujours un petit neuneu dans l'équipe, hein, et qui lui en fait va à un moment expliquer à Charles que lui il veut vraiment une histoire simple, que eux ils cherchent vraiment la grande histoire, que lui se contentera parce qu'il sait que de toute façon voilà c'est pas le beau gosse. Il y a évidemment le mariage de Carrie avec Hamish, voilà, puisque c'est là où ils vont assister. Et puis évidemment Henriette, tronche de canne, que Charles doit épouser, dont la fin, évidemment, est un peu percutante, dirons-nous.
Vraiment, c'est Mr. Bean, là, qui est dans ce film, qui
oui,
fait
mais
le prêtre.
Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà, du sans-esprit, au nom du père et du sans-esprit, quoi. Non, il est excellent. Moi, je pense, je vois que c'est effectivement...
C'est The British Touch.
Voilà, c'est ça. C'est The British Touch, vraiment l'humour qui va très bien avec ça. Il y a aussi 10 bonnes raisons de te larguer, de Gilles Junger. Alors là, attention les gars, retenez-vous, on est dans une telenovelas brésilienne. Donc Cameron, qui est joué par Joseph Gordon-Levitt, qu'on a vu dans Looper, tombe amoureux de Bianca. Mais il ne peut sortir avec elle, puisqu'évidemment, en fait, elle a une frangine, et que comme qui est moins attractif, donc le père oblige Bianca à dire que si elle veut sortir, sa frangine doit aussi sortir. Donc Cameron doit trouver un fiancé. Il va d'abord demander à Patrick, qui est joué par Heath Ledger. Donc voilà, à sortir avec Kate. Mais il refuse, Cameron demande alors un autre garçon, Joey. Et celui-ci va payer Patrick pour sortir avec Kate. Évidemment, Patrick, c'est le mauvais garçon. Hein. En fait, tout le monde dit que c'est un mauvais garçon, mais en fait, ce n'est pas un mauvais garçon. Évidemment, Bianca va tomber amoureuse de Cameron, Kate de Patrick, jusqu'au bal de promo où la vérité sort du placard. Parce qu'il y a toujours cet élément dans
le
les...
placard
dans... Oui, non, non.
Ah.
Non, la vérité qui sort du placard. Parce qu'il y a toujours ce moment-là où l'histoire se passe très bien, mais comme dans aussi Pretty Woman, à un moment, on lui remet dans la gueule qu'elle est une prostituée. Tu vois, il y a toujours ce ressort dramatique. Et évidemment, à la fin, tout le monde sait que tout le monde va surmonter ces fameux passages. Oui, alors, évidemment, qui est aussi un grand classique, et enfin, un moindre succès quand même, c'est Ce que veulent les femmes, de Nancy Meyers. Je sais pas si tu t'en souviens, en 2000... Donc, suite à un
accident. Ce que veulent les femmes.
Ce que veulent les femmes, ouais.
Qui s'est électrocuté dans sa baignoire.
Voilà, c'est ça, le fameux misogyne Nick, qui est joué par Mel Gibson. Mmh. Évidemment, il entendra tout.
Oui,
ce que
pensent
les femmes.
Ouais.
Voilà,
c'est pas mal.
Avec Helen Hunt.
C'est drôle.
Voilà. Et moi aussi, ce qui reste quand même un super classique, c'est évidemment, comme tu l'avais dit, le journal de Bridget Jones, de Sharon McGee.
En 2000, ça ?
En 96. Donc, c'est un roman d'Hélène Findeldin. Donc, évidemment. Là aussi, on touche la trentaine, puisque évidemment Bridget a la trentaine. Elle travaille dans une maison d'édition qui est dirigée par Daniel Hugh Grant, dont elle est amoureuse. Là, elle rencontrera à un moment dans une fête Mark Darcy. Alors, Darcy, souvenez-vous-en, parce qu'on va en reparler de ce personnage. Donc, dans une soirée, elle entend qu'évidemment, il parle mal d'elle. Donc là, elle décide de changer. Daniel raconte à Bridget que Mark lui a volé sa fiancée. Et en même temps, il la trompe. Donc, elle va retrouver Mark, qui est joué par Colin Firth. Donc, voilà, il y a une baston entre Daniel et Mark. Elle les rejette. Elle apprend la vérité qu'effectivement, le méchant n'est pas Mark, mais bien Daniel. Et donc, elle va essayer de le retrouver. Évidemment, tout ne se passe pas, puisque logiquement, lui va partir à New York. Parce que forcément, il y a le départ dans l'aéroport. Classique. Et qui doit épouser quelqu'un. Donc là, elle le ramène chez lui. Et là, il lit son journal et évidemment, elle est complètement discréditée. Il se barre et devine où il se rencontre ?
Dans un aéroport.
Non, dans une librairie. Ah. Oui, c'est un gros classique. Il y a le fameux aussi Un amour à New York de Peter Shalom avec John Cusack et Kate Beckinsale. Donc, c'est un coup de foudre entre un homme, Jonathan et Sarah, qui ne se connaissent pas. Mais hélas, ils sont engagés ailleurs. Donc ils ont chacun leur relation. Ils couchent quand même ensemble et le matin, ils se donnent leur numéro de téléphone. Évidemment, ils les paument. Et quelques années plus tard, au moment où ils vont se marier, évidemment, ils vont partir à la recherche de l'un de l'autre. Là aussi, le hasard joue beaucoup. Hein. C'est ce fameux truc où tout le monde se recherche et ils passent toujours l'un à côté de l'autre, mais sans se voir. Il n'y a que le spectateur qui le voit et ça, je t'avoue que des fois, c'est assez chiant. Le super grand classique, Love Actually, du britannique Richard Curtis. Donc là, de nouveau Hugh Grant qui joue un premier ministre, donc qui tombe amoureux de sa secrétaire Nathalie et qui est carrément au bord de créer un conflit entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, puisqu'apparemment le président américain aurait fait des avances à Nathalie. Liam Neeson qui joue un père veuf qui va aider son fils à toucher le cœur de sa douce et qui évidemment lui voudra rencontrer une sosie de Claudia Schiffer qui évidemment il rencontrera à la fin dans l'aéroport. Donc Alan Rickman qui lui travaille dans une entreprise de design, lui est attiré par Mia, sa secrétaire. En fait, il est marié déjà à Emma Thompson qui est donc aussi la sœur du Premier ministre.
Toutes les
histoires
sont assez beaucoup de personnages, je trouve, dans les comédies romantiques britanniques.
Oui, tout à fait. Colin Firth, dont on avait déjà parlé, dans Bridget Jones, découvre l'infidélité de sa copine et s'en va s'isoler en France. Et là, il découvrira Aurélia, une portugaise. Donc, ce qui est superbe, c'est-à-dire qu'ils s'apprécient dès les premiers instants, mais comme la langue les empêche de communiquer, en fait, c'est super génial. Il y a Bill Knight, qu'on a vu dans les films Underworld, qui est une vieille star de rock et qui sort une musique. Et d'ailleurs, c'est la même musique que pour 4 mariages et un enterrement. Hein. Donc voilà, et donc lui, il a une histoire d'amitié avec Joe. Il y a Keira Knightley, qui a épousé Peter, mais hélas, Mark, le meilleur ami de Peter, est amoureux d'elle. Laura Linney, qui travaille pour Alan Rickman, est amoureuse, mais hélas, elle a un grand secret, donc elle ne pourra pas. Elle, ce sera la malheureuse de l'histoire, parce qu'il faut toujours. Donc il y a aussi Chris Marshall, qui part aux États-Unis parce qu'il n'a pas su trouver des femmes anglaises, donc il croit qu'aux États-Unis, les femmes sont super belles et super ouvertes. Et puis il y a notre ami Martin Freeman, notre fameux Bilbon, qui lui rencontre Judy. Sur des séances de tournage et en fait lui il sert de silhouette au cinéma, c'est-à-dire qu'ils sont souvent tout nus dans des positions plus qu'explicites et voilà, et là il va tomber amoureux de cette femme alors que voilà, c'est l'inverse, et, tu vois, ils vivent l'histoire inversée puisqu'ils sont d'abord tout nus avant de se rencontrer vraiment. J'avais parlé du personnage de Darcy, évidemment on le retrouve dans Orgueil et Préjugés de Joe Wright, qui était évidemment dont on avait déjà parlé la semaine dernière dans Coup de Foudre à Bollywood. Donc évidemment, cette histoire de cette mère qui veut faire épouser ses quatre filles, le personnage de Keira Knightley, Elizabeth, qui rencontre Darcy, qui évidemment, lui, bah, comme dans Bridget Jones, hein, c'est un peu le même oui. truc, c'est-à-dire qu'il est le gentil, lui il veut garder l'honneur, donc il ne parlera pas. Évidemment, son rival va bien lui baver sur les chaussettes. Et évidemment, elle saura la vérité à la fin que lui.
C'est un peu toujours les mêmes scénarios.
Mais c'est toujours moi.
Aussi... Sauf côté français, moi je trouve. Oui, qu'on est vachement voilà. originaux.
Et ben moi je vais faire les derniers puis on se lancera dans les français. Un film que j'ai adoré, c'est The Holidays de Nancy Meyers en 2006. Donc c'est Amanda qui est une Californienne qui est jouée par Cameron Diaz qui échange sa maison avec Iris, Kate Winslet. Donc là, Amanda, elle va rencontrer le frère d'Iris qui est joué par Jude Law qui est un père veuf. Et évidemment, Iris, elle va rencontrer des gens qui ont travaillé vraiment à Hollywood à ses débuts et elle rencontrera aussi Joe Black. Donc, moi, je trouve qu'il est très très bien ce film. Non, après, évidemment, il y a Coup de Foudre à Notting Hill aussi. Donc, ouais. Julia Roberts a eu Grant.
Une histoire de librairie encore ?
Oui, voilà, puisque lui, il travaille dans une librairie spécialisée et elle, c'est une star de cinéma hyper connue. Il y a Amour et Trahison aussi avec Douglas Scott et Jennifer Love Hewitt. Donc une nana qui va essayer de tester.
Devil.
Oui c'est ça. Elle va essayer de comment ça s'appelle de voir si son mari la trompe et effectivement et là évidemment le meilleur ami est amoureux d'elle quoi. Donc, voilà.
C'est bon.
Il y a Amour et ses petits désastres d'Alec Kishishian avec Brittany Murphy. Donc voilà et Emily Jackson donc qu'on appelle Jack et évidemment elle travaille, c'est une fashionista et évidemment elle vit avec Peter qui est son colocataire qui est gay. Et évidemment, et c'est notre amie Talula qui est une croqueuse d'homme. Et là, évidemment, elle va rencontrer un jeune homme et qu'elle croit être homosexuel. Donc, elle va vraiment se livrer à lui comme une amie, comme on dit. Et alors que lui, il est amoureux d'elle, quoi. Donc voilà, il y a toutes ces histoires, évidemment, aussi. Mais par contre, c'est vraiment très, très britannique. Il y a vraiment, je trouve, un humour plus... pas, je dirais pas plus criant, mais plus acide que les comédies
plus américaines. En retenue quand même.
Ouais, non, je dirais qu'eux, ils pointent vraiment, ils osent vraiment bien plus. Moi, je trouve ça plus marrant chez les Anglais que chez les Américains. Les Américains, ils ont encore une pruderie qui leur permet pas de vraiment d'assumer de l'humour, quoi.
D'accord. Donc, ben, Cocorico, on y arrive. Donc, moi, je vous parlais, bon, pas des années 80 et tout ça, parce que Gwen,
c'est
un spécialiste des momies. Donc, moi, je... plus Paris-Manhattan, hein, de Sophie Lelouch.
Il est superbe celui-là, oui.
Ah oui,
ouais.
Je trouve ça chier.
D'accord.
Donc avec Alice Taglioni, Bruel Patrick, hein, pour Anaëlle, qui est une grande fan de Patrick Bruel. Woody Allen.
Oui, oui.
Donc Alice, hein, est jeune, belle et passionnée par son travail, hein, de pharmacienne. Donc seul problème, elle est toujours célibataire.
Mm-hmm.
Donc préférant se réfugier dans sa passion pour Woody Allen... Elle résiste tant bien que mal à la pression de sa famille, hein, qui est jouée par son père Michel Aumont, je
crois. Oui, tout à fait, oui.
Donc, pourtant, sa rencontre avec Victor, donc Mr. Bruel,
voilà,
pourrait bien changer la donne. Donc, pour rejoindre Gwen, on va dire que c'est un très beau film sur les problèmes de cœur. Et avoir les conseils de Woody Allen, c'est merveilleux. Il
n'y
a que ça qui est bien. Mais sinon, c'est une trop gentille comédie romantique avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de longueur.
Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Non,
heureusement, mais... ça dure 1h10.
C'était
quand même le beau plantage de Mademoiselle Lelouch.
Non, mais c'est convenu. Je veux dire, la nana, elle est aficionados de Woody Allen. Et paf, qui c'est que rencontre Victor d'un coup ? Woody Allen, tu dis, ouais, c'est un peu gros, les ficelles sont un peu grosses.
Heureusement qu'il y a Alice Taglioni, parce que
oui, voilà,
Bruel arrive et on a l'impression que tout est fait. En fait,
voilà,
son air hautain, j'aime pas bien. Non, mais comment ne pas vous parler aussi de le cher et très beau film que j'ai beaucoup aimé, Mademoiselle Chambon.
Tu appelles ça une comédie, toi?
Bien sûr, je vais te dire pourquoi. De Stéphane Brisé. Donc, avec Or Attica, Sandrine Kiberlin et Vincent Dindon.
Oui, c'est le grand classique, hein,
oui, donc de
Kiberlin.
De 2009, qui a quand même eu le César 2010 du meilleur adaptation. Donc, Jean est quelqu'un de bien, qui est joué par Vincent Lindon. Un bon maçon, un bon fils, un bon père, un bon mari. Quel beau film. Et dans son quotidien sans heurts entre famille et travail, il croise la route de Mademoiselle Champon.
Ça chante bon.
Oui. Donc, il est joué par Sandrine Kiberlin. Or, Attica est donc la femme de Mister Dindon. Donc, l'institutrice de son fils. Donc, il est un homme de peu de mots. Oui, ça, on s'en est rendu compte. Hein. Elle vient d'un monde différent. Ils vont être dépassés par l'évidence des sentiments. Filmant le coup de foudre, hein, comme personne, hein, ça il faut le dire aussi. Hein.
Oui, tout à fait.
Donc capturant la retenue de ces personnages, hein, bah oui, ils sont vachement retenus.
Oui,
donc,
c'est platitude.com, on appelle
oui,
ça.
Non, mais c'est beau et on s'emmerde un peu quand même, parce que bon, la seule action du film, c'est quand même quand il change la porte-fenêtre.
Oui, moi ça m'a ému.
Oui, non, mais je pense qu'on n'est pas assez émotif pour
tout
apprécier
fait,
ce film. Donc faisant germer puis éclore cet amour intense, donc rendant...
Intense
Oui, mais tu peux pas comprendre. Rendant palpable et même viscérale l'impossibilité qu'ont ces deux personnages à vivre leur histoire.
Ouais, tout à fait.
Non, mais il est quand même beau et il faut le dire parce que Télérama s'était masturbé dessus pendant des semaines.
Oui, bah ça, de toute façon, c'est la spécialité de Télérama.
J'aime pas bien que tu critiques Télérama parce que moi, j'aime beaucoup.
D'accord, ok, super.
Donc, nous allons passer aussi en 2013 ou 2012, je ne sais plus. Amour et turbulence, hein, d'Alexandra Castagnetti.
Mmh.
Avec donc Nicolas Bedos et Ludivine Sagnier.
Ouais,
il y a aussi Clémence Célarié. Mmh. Elle est salariée d'ailleurs. Alors qu'un avion, oui, encore.
Bah oui.
Oui, les ramène donc de New York à Paris, hein, où elle s'apprête à se marier. La belle Julie, donc jouée par Ludivine, donc se retrouve donc assise à côté d'Antoine, hein, un séduisant débauché qu'elle a aimé 3 ans plus tôt. Mmh. Elle va tout faire, donc surtout dans un avion, c'est très sûr, pour l'éviter, alors qu'il compte sur ses 7 heures de vol pour la reconquérir. Donc l'occasion pour nous de voyager dans le passé, de revivre leur rencontre, leur amour, leur rupture, autant de scènes rocambolesques, romantiques et corrosives qui vont faire de ce voyage le plus bouleversant de leur vie. Donc on va dire que c'est une jolie idée pour une comédie qui met un peu de temps à décoller, il faut le...
C'est le cas de le dire.
Oui, trop de carburant sûrement. Et qui repose surtout sur le charme, hein, convaincant des deux protagonistes,
tout à fait,
surtout
oui,
de Ludivine.
Ouais, bah ça je m'en doute. Oui, ça me fait penser là justement quand tu me parles de Monsieur Bedos, c'est du film L'amour dure 3 ans de Frédéric Becbédé avec Gaspard Proust, Louise Bourgoin, Joe Starr et évidemment Nicolas Bedos. Donc évidemment, Marc Maronnier, suite à sa rupture avec Anne, écrit L'amour dure 3 ans. Là, il rencontrera Alice. Évidemment, toujours des Alice.
Femme c'est le pays de son des merveilles.
Cousin, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Évidemment, la femme de son cousin Antoine. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film parce que j'aime beaucoup le côté narratif. Donc, mais c'est vrai que voilà, il est très sympa aussi celui-là.
Donc aussi, comment ne pas citer Populaire, hein, qui est passé dernièrement dans votre célèbre rocher, le Pestel. Hein.
Tout à fait, oui.
Parce que le décor, la musique, les costumes, les attitudes, les accessoires, la lumière, tout est reconstitué avec un réalisme et un style époustouflant qui nous rappelle les comédies romantiques américaines de notre cher Billy Wilder.
Et puis ça me fait penser, puisque c'est évidemment le personnage de Romain Duris. Romain Duris qu'on retrouve dans L'Arnaqueur de Pascal Chaumel en 2010 avec Julie Ferrier, évidemment Vanessa Paradis et François Damien. Évidemment, là aussi c'est le grand classique du cinéma des comédies romantiques, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans le personnage d'un type qui est, dont la spécialité et de briser des couples, parce qu'il y a aussi quelques comédies américaines qui sont comme ça.
Il y a
le
Vanessa
mec, il est
Paradis,
payé, c'est ça. Oui. Et en fait, le truc, c'est que évidemment, il va rencontrer Vanessa Paradis, et là, évidemment, tout va être bouleversé. Donc non, très bien, très beau film aussi celui-là. Un autre film que j'adore, c'est Je vous trouve très beau d'Isabelle Mergault avec Michel Blanc et Madea Marie Chenescu. Donc c'est un agriculteur de la Drôme. Et oui, ça a été tourné vers Montélimar et Le Teil. Qui évidemment va passer une annonce pour trouver une femme en Roumanie. Il trouve une femme, Elena, il va l'amener. Elle a un secret évidemment, parce qu'il y a toujours un secret à un moment. Et lui, en fait, c'est un gros bougon, quoi. Donc voilà, il y a ce personnage où elle va essayer vraiment de le séduire parce qu'elle se dit, bon bah voilà, on va essayer de faire sa vie comme on peut. Et lui, en fait, tout ce qu'il veut finalement, c'est pas vraiment une femme, c'est quelqu'un qui l'aide à l'exploitation. Et là, évidemment.
Un esclave, quoi.
On peut dire ça comme ça, oui. Et évidemment, il va y avoir une belle histoire d'amour là-dedans. Il est très très bien ce film.
Bon, alors moi je reviens toujours en 2000, Thérèse, hein, avec la sortie là, de 20 ans d'écart, hein, de David Moreau, avec Virginie Efira, Pierre Ninet et Charles Burling. Donc c'est Alice encore, hein.
Oui,
Alice London, hein, à 38 ans, elle est belle, ambitieuse et fait preuve d'une impeccable conscience professionnelle, hein, n'est-ce pas, monsieur Gouin ? Au point d'en oublier sa vie privée.
Non !
Mais c'est ta vie, ça ? Non.
Dis con, là.
Ah, bref, elle a tout pour devenir la prochaine rédactrice en chef du magazine Rebelle. Tout sauf son image de femme coincée. Mais lorsque le jeune et charmant Balthazar, hein, arrivant avec son beau chameau.
Et ses deux potes ?
Oui, à peine 20 ans, hein. Donc, 20 ans d'écart, vous avez compris. Va croiser le chemin d'Alice. Le regard de ses collègues va inexplicablement changé, donc réalisant qu'elle tient la clé de sa promotion, hein, avant tout business, Alice va feindre la comédie d'une improbable idée. Donc c'est une comédie romantique, hein, hors des sentiers battus, hein, comme une ode à l'anticonformisme et à la liberté. Donc une comédie pétillante et enlevée, un sens de l'humour bien affûté, auquel il faudrait être bien difficile pour résister à cela, monsieur Gwen.
Prête-moi ta main. D'Éric Lortigo, qui est en 2006, donc Alain Chabat, Louis, qui est né pour grand parfumeur, vit au milieu de sa mère et de ses 5 sœurs. Donc voilà, la mère est jouée par Bernadette Lafont. Pour ne pas se marier, Louis conçoit un plan. Il y a toujours un plan, et tu sais que de toute façon, directement, il va être foireux. Donc, il faut qu'il trouve une femme parfaite pour que le jour du mariage, elle le largue. Comme ça, évidemment, plus jamais personne ne lui parlera de mariage. Donc, il trouve Emma, Charlotte Gainsbourg. Mais le problème, c'est qu'elle est tellement parfaite que sa famille l'adopte et que finalement, le plan se retourne contre lui. C'est lui qui devient le salaud. Donc, tout le monde. Donc il est obligé de repayer Emma pour qu'elle, là, par contre, elle joue la méchante. Évidemment, entre-temps, il est tombé amoureux et que là, maintenant, il va falloir évidemment convaincre la famille que c'est la femme de sa vie.
Donc, moi, je vais quitter la France. Hein. Love is all you need, hein. Donc c'est avec Pierce Brosnan, hein, l'ex James Bond.
Oui, tout à fait, oui.
Et Trine Dearholm, hein, que vous avez pu voir dans Royal Affair. Okay. Que d'origine anglaise, donc Philippe, donc joué par Mr. Pierce, hein, la cinquantaine s'est établie au Danemark où il vit seul depuis qu'il a perdu sa femme. De son côté, Ida, donc la jeune Trine, hein, enfin jeune, c'est un bien grand mot, coiffeuse danoise se remet progressivement de sa chimio. Ça, c'est un bon film d'amour comme on aime. Donc, tandis que son mari vient de la quitter pour une femme plus jeune. Hein, ça, c'est dans l'air du temps.
Oui.
Donc les trajectoires de ces deux êtres malmenés par la vie vont se croiser, hein, oui, en Italie. Et oui, vous me direz pourquoi. Ben, tout simplement à l'occasion du mariage de Patrick, le fils de Philippe et d'Astrid, donc la fille d'Ida. Oh, grande joie. Donc c'est une alternative passionnante à la comédie sentimentale classique qui prend tous les risques, y compris celui d'éviter la fin heureuse de rigueur. Donc c'est une bleuette danoise dont le charme tient essentiellement à la plastique irréprochable de Pierce, hein, au piquant de Trine et à la magnificence des paysages du sud de l'Italie. Oui. Touchante comédie romantique, joliment écrite et finement interprétée.
Ces comédies romantiques depuis les années 30, que ce soit américaine, britannique ou même française, avec un petit décalage, voire même danoise. Hein. Donc c'est vrai que ça obéit à des codes. Je veux dire, on sait pertinemment comment ça va se passer. Ces films ont amené beaucoup de séries comme Clair de Lune, comme les fameux sitcom Madame est servie, Une nounou d'enfer, Friends. Parce qu'évidemment, toujours ces histoires de protagonistes qui sont évidemment opposés. Donc dans Madame est servie, la femme d'affaires et l'homme de ménage. Dans Clair de Lune, la blonde froide et le brun extravagant. Dans Une nounou d'enfer, la nounou juive américaine et l'homme d'affaires anglais, Goy. En même temps, on sait pertinemment où l'histoire va arriver.
Des fois, au bout de 8 saisons, il faut
voilà, attendre. Voilà, c'est ça. Le tout est de savoir comment. Je veux dire, quand tu sais qu'à un moment, il y a un pari. Quand le mec, il dit, moi, je te parie que je vais sortir avec la nana. Tu sais pertinemment que c'est ça qui va faire qu'à un moment, le couple va être mis en danger. Et pourtant, tu te fais avoir à chaque fois. C'est ça que je trouve qui est magique. Bon, je pense que c'est quand même plus des films féminins que des films masculins. Encore que, je veux dire, Les scénaristes ne sont pas idiots, ils ont su un petit peu aussi jongler entre les deux. On se retrouve aussi toujours dans ce truc où, malgré qu'on le sait, on adore regarder, puisque voilà, il y a une part de magie quand même là-dedans.
Alors maintenant, vu que...
Nous n'avons pas le programme du Pestel.
Oui, donc nous avons quand même quelques pistes. Hein.
Voilà, tout à fait.
Nous allons quand même parler de quelques films que vous ne pouvez pas louper.
Oui.
Alors, The Place Beyond the Pines, hein, de Derek Greenfield. Donc, dedans, il y a Ryan Gosling. Hein,
blond.
Oui, je dédie ce film à une amie qui s'appelle Eva de Belgique, qui nous écoute de temps en temps.
D'accord.
Donc, qui est folle de Ryan, en fait.
Oui, notre chère Anaëlle aussi. Hein.
Donc, Bradley Cooper et Eva Mendes.
Oui.
Donc, cascadeur à moto, Luc, qui n'est pas la main froide. Donc, est réputé pour son spectaculaire numéro du Globe de la Mort. Quand son spectacle donc itinérant revient à... Chenakeke, dans l'état de New York, il découvre que Romina, donc Eva, hein, avec qui il avait eu une aventure, vient de donner naissance à son fils. Oh là là. Pour subvenir donc aux besoins de ceux qui sont désormais sa famille, Luc quitte le spectacle et commet une série de braquages. Mais Luc va bientôt croiser la route d'un policier ambitieux, donc Avery, qui est joué par notre ami Bradley, décidé à s'élever rapidement dans sa hiérarchie, gangréné par la corruption. Donc un swell sombre et poignant ancré dans l'Amérique profonde. Ce film rejoint ainsi le club très fermé des films dont on sait d'instinct qu'on ne les oubliera jamais. Ce film slalom entre polar classieux et mélo dévastateur avec une fluidité évoquant pêle-mêle James Gray ou Clint Eastwood. C'est un genre à la Drive.
Je dirais que oui, effectivement, c'est le risque, comme ça s'appelle, de Ryan Gosling, que ça lui reste un peu collé à la peau, surtout qu'il y a le film God Forgives Not Me, qui va être un peu dans le même genre, donc effectivement, ouais, je pense que c'est un peu dans la même veine que Drive.
D'accord, donc là, nous allons revenir en France, hein, pour nos amis, pour venir plus terre à terre et faire un peu d'obstacles, avec Japloux, que j'ai vu en affiche au Pestel, donc de Christian Duguay. Avec donc Guillaume Canet, hein, qui est d'ailleurs le scénariste, Marina Hens et Daniel Auteuil, Tchéki Cario et Higelin, notre ami, et Lola de Lage.
Je me dis que Marina Hens adore les chevaux, puisqu'on l'avait déjà vu
en sport de filles.
Voilà.
Donc au début des années 80, abandonnant donc une carrière d'avocat prometteuse, Pierre Durand, hein, qui a réellement existé. Hein.
Oui.
On est d'accord, parce que Japloux, c'était bien son cheval.
Oui, tout à fait, oui.
Se consacre corps et âme à sa passion, c'est-à-dire le saut d'obstacles. Donc soutenu, c'est pas évident. Hein. Par son père, il mise tout sur un jeune cheval auquel personne ne croit vraiment, Japloux. Trop petit, trop caractériel, trop imprévisible. Hein, je connais ça. Il a de nombreux défauts, mais une déteinte et des aptitudes remarquables. Donc, de compète en compète, hein, le duo prometteur et progresse très vite d'ailleurs et s'impose dans le monde de l'équitation. Donc, c'est un très beau film, un scénario bien rythmé et de très bons acteurs. Pas un grand film sur le cheval, attention, hein, pour les gens qui diraient ah, encore un film sur le cheval. Non, 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 c'est un grand film tout court. Depuis combien de temps le cinéma français ne nous avait-il pas offert un spectacle aussi noble et exaltant ? Donc moi, un petit dernier pour la route, hein,
oui,
puisqu'on est, on est encore dans la comédie romantique.
Tout à fait.
Je vais vous parler donc de Warm Bodies Renaissance. Hein. C'est un film donc, qui est quand même réservé pour les 14-16 ans. C'est-à-dire, Gwen, tu ne pourras pas aller le voir.
Oh non !
Et si. Donc de Jonathan Levin, hein, donc avec Teresa Palmer, Nicolas Hoult et John Malkovich. Donc, un mystérieux virus a détruit donc, toute civilisation. Les rescapés vivent dans des bunkers fortifiés, redoutent leurs anciens semblables devenus des monstres dévoreurs de chair. R, un mort-vivant romantique, sauve contre toute attente Julie, une adorable survivante, et la protège de la voracité de ses compagnons. Au fil donc des jours, la jeune femme réveille chez lui des sentiments oubliés depuis longtemps. Elle-même, virgule, découvre chez ce zombie différent autre chose qu'un regard vide et des gestes de momie. Oui, Gwen, tu existes. Donc ce film porte un regard aussi réjouissant qu'étonnant sur l'amour, la fin du monde et les zombies. De quoi nous rappeler ce que c'est d'être humain. Donc c'est un panachage inattendu de films de zombies et de comédies romantiques. C'est amusant, donc c'est pour ça que je voulais le citer, qui a en plus une très bonne critique.
Deux films, donc The Grandmaster de Wong Kar-wai avec Tony Leung et Zhang Ziyi. Ça raconte l'histoire de Ip Man. Donc en Chine, en 1936, Ip Man, champion du Wing Chun et futur maître de Bruce Lee, vit prospère à Fushan, entre famille et arts martiaux. Le grand maître Bao Sen cherche son remplaçant avec sa fille Gong Er, spécialiste du style Bagua et seule à maîtriser la figure mortelle des 64 mains. J'adore ce genre de truc. Ip Man donc bat le maître du sud et rencontre Gong Er. Évidemment, là, histoire d'amour, mais là, c'est impossible. Donc Bao Sen est assassiné et les Japonais prennent la Chine. Et donc, évidemment, Ip Man et Gong Er devront prendre des décisions qui bouleverseront leur vie. Donc, évidemment, c'est très joli, c'est du Wong Kar-wai, donc les images sont extraordinaires. Je pense que la musique doit l'être aussi. Il y a beaucoup de gens qui, évidemment, disent qu'il y a peu de scénarios, que c'est évidemment long. Pour ceux qui ont aimé In Mood for Love ou 2046, je pense qu'ils vont adorer. Alors, évidemment, là, il y a un peu d'action quand même, hein, c'est quand même Ip Man. Plaisir de retrouver, évidemment, l'acteur fétiche de Wong Kar-wai, Tony Leung et surtout Zhang Ziyi. Je voulais aussi parler d'une autre histoire d'amour, L'écume des jours de Michel Gondry. Alors, souvenez-vous, Michel Gondry, c'est The Green Hornet, Soyez sympa, rembobiné, évidemment, La science des rêves. D'après le roman de Boris Vian, avec Romain Duris, Audrey Tautou, Gad Elmaleh, Omar Sy. Donc c'est une histoire surréaliste, Colin rencontre Chloé, qui est pour lui l'incarnation du blues de Duke Ellington, mais hélas, la jeune fille a une maladie, elle a un nénuphar qui lui pousse dans les poumons. Pour payer les soins, Colin doit travailler et évidemment, comment ça s'appelle, dans des conditions de plus en plus absurdes. En plus, leur appartement se dégrade et leurs amis Nicolas, donc Omar Sy, Chic, Gad Elmaleh et le philosophe Jean-Saul Pâtre se délitent. Si on a aimé la science des rêves, je pense qu'effectivement, on va se retrouver ce plaisir évidemment de la veine surréaliste de Boris Vian.
Donc tous les films que l'on a parlé ne passeront peut-être pas au pastel, mais on peut voir, donc je pense, parce que j'ai vu les affiches, donc il y a Le Magicien d'Oz, Japlou, 20 ans d'écart, j'ai cité tout à l'heure, et donc un petit dernier que je vais vous parler, là c'est La Maison de la Radio, hein. C'est un documentaire de Nicolas Philibert, et Désastre.
Oui.
Donc une plongée au cœur de Radio France, hein, à la découverte de ce qui échappe habituellement au regard. Donc les mystères et les coulisses d'un média dont la matière, même le son, demeure invisible. Donc c'est un sujet
passionnant.
Passionnant.
Ah ouais, il y a passionnant.
Non.
Oh merde.
Oui. Donc soutenu par un formidable travail sur le son à réserver donc aux auditeurs maison. Souvent burlesque, parfois émouvant, cette leçon de montage se révèle aussi un film sur l'échange, la mise en scène et l'organisation du chaos. Quelques séquences répétitives finissent par lasser tout de même. Oui. Au désastre, au joie. Donc la semaine prochaine, Mr. Guan.
Eh bien, la semaine prochaine, on va parler d'un sujet dont on a parlé souvent dans cette émission. Et
je m'attends au pire.
Et aujourd'hui, surtout, c'est...
L'amour ?
Non.
Ah.
Non, c'est une ville.
New York.
Voilà, on va parler de New York, de tous les films qui ont lieu à New York.
Et la cité chère à Woody Allen d'ailleurs.
Et à Martin Scorsese.
Oui.
Donc voilà, donc c'était un petit hommage à un ami.
Revenu dernièrement de
New York. Voilà. Et je voulais aussi dédicacer cette émission à Coco, c'est... l'amour et vous, puisque évidemment dans les comédies romantiques,
souvent cinéma,
voilà,
oui.
C'est ça. Et que évidemment, comme elle est super romantique, et ben voilà, je voulais faire un petit hommage.
D'accord.
Donc voilà, donc la semaine prochaine, ce sera New York, New York.
Ok. Allez, ciao.
Allez, ciao et
bonne
goodbye.
Semaine. Box of chocolates.